O Henry, le calife, Cupidon et l'horloge. Le prince Michel de l'électorat de Valleluna était assis dans le parc sur son banc favori. La fraîcheur de cette nuit de septembre le ravicotait mieux que n'eût pu le faire le plus précieux des vins toniques. Il y avait peu de monde sur les bancs, car les habitués du parc, bipèdes aux sans paresseux, avaient regagné leur wigwam aux premières moirsures frisquettes d'un automne précoce. La lune venait d'émerger au-dessus du pâté de maison qui borde le parc à l'est. Des enfants riaient et folâtraient autour de la fontaine, au jeu d'eau pétulant. Dans les recoins obscurs, les faunes poursuivaient les amadriades sans paraître se soucier du regard des mortels. Un orgue de barbarie, notre Philomèle, dirait le poète, égrenait dans une rue adjacente ses notes mécaniques et langoureuses. Autour des barrières enchantées du petit parc, grondaient et miaulaient voitures, autobus et tramways, et les trains du métro aérien rugissaient comme des lions à travers les grilles. Au-dessus des arbres brillait la face ronde, large et luisante, d'une horloge enchâssée dans la tour d'un vieux bâtiment public. Les souliers du prince Michel avaient atteint un état de vétusté qui eût découragé le plus expert des repasseurs de semelles. Et sa garde-robe eût fait fuir tous les marchands d'habits de Brooklyn. La broussaille pileuse qui parsemait son visage avait pris des nuances polychromes, allant du brun au gris et du rouge au verdâtre, ce qui la faisait ressembler à quelque chose comme une vue de la gare Saint-Lazare en si bémol diaphorétique paraboïdale, perpétrée par un barbouilleur de Montparnasse. Quant à son chapeau, la plus vorace des ouvreuses eût refusé de le prendre au vestiaire. Le prince Michel souriait, assis sur son banc favori. Cela le divertissait de penser qu'il était assez riche pour acheter, s'il lui en eût pris la fantaisie, tous ces tas d'immeubles dont il apercevait devant lui les fenêtres illuminées. Dans cette fière cité de Manhattan, il aurait pu rivaliser avec n'importe quel Crésus en manière de bijoux et platine. Or et tableaux, châteaux et objets d'art, hectares, yachts, limousines, personnel domestique, tabis d'Orient, cigares, jaquettes, clubs, trains spéciaux, poules de luxe et villes d'eau, si c'était simplement contenté de grignoter les bords de son vaste pudding de possessions héréditaires. Il aurait pu se mettre à table avec des princes et régnants. L'accueil chaleureux des cercles mondains et artistiques, l'amitié de l'élite, l'adulation, l'imitation, l'hommage des plus célèbres beautés, les plus grands honneurs, la louange des sages, la flatterie, l'estime, le crédit, le plaisir, la gloire, le turf, le jockey club, l'amour des vedettes cinématographiques, le respect des juges d'instruction, l'obséquiosité des maîtres d'hôtel, des tailleurs, des manucures, des médecins, des héritiers, des ministres, des contrôleurs de wagons-lits, tout le miel de la vie était à tout moment dans la ruche du monde à la disposition du prince Michel de l'électorat de Valleluna. Il n'avait qu'à lever le doigt pour faire couler à flot sur ses lèvres le suc divin de l'opulence. Et cependant, il préférait rester crasseux et haillon, assis sur un banc du parc. Car il avait goûté aux fruits de l'arbre de la vie, et l'ayant trouvé amer, on l'avait recraché. Il était sorti de l'Éden afin d'essayer pendant quelque temps de se distraire en collant son oreille à la poitrine nue du vaste monde pour en écouter battre le cœur. Telles sont les pensées qui flottent en l'âme rêveuse du prince Michel, tandis qu'il sourit sous le charme de sa barbe multicolore. Il aime à flâner ainsi, vêtu comme le plus pauvre des clochards qui mendie dans les parcs pour étudier l'humanité. Dans l'altruisme, il a trouvé plus de plaisir que n'en ont jamais pu lui en procurer ses richesses, sa situation et toutes les plus grossières jouissances de la vie. Son bonheur et sa consolation suprême sont de soulager la détresse individuelle, de combler de faveur ceux qui lui paraissent dignes d'être secourus, d'éblouir les infortunés par des présences inattendues et sidérantes, d'une munificence vraiment royale, mais toujours distribuées avec une judicieuse sagesse. Le regard du prince Michel s'arrêta sur la face illuminée de la grande horloge nichée dans la tour, et son sourire, tout altruiste qu'il fût, se teinta d'un léger mépris. Car le prince affectionne les hautes et profondes cogitations. C'est toujours avec un hochement de tête qu'il l'a considéré l'abjecte soumission du monde aux arbitraires mensurations du temps. Et c'est avec tristesse qu'il contemple les allées et venues fiévreuses et craintives des hommes, asservis par les petites baguettes d'acier d'une pendule. Un jeune homme, en habit de soirée, vint s'asseoir sur un des bancs voisins du trône de Velleluna. Pendant une demi-heure, il ne cessa de fumer des cigarettes avec une nervosité fébrile. Puis il se mit à surveiller attentivement la grande horloge. Son trouble était évident, et le prince ne laissa point de remarquer, avec une certaine mélancolie, que cette agitation semblait avoir une liaison secrète avec les mouvements des bâtonnets horométriques. Son Altesse se leva et s'approcha du jeune homme. « Oh, je m'excuse de vous importuner, dit-il, mais je m'aperçois que vous êtes en proie à de certaines perturbations psychologiques. Si cela peut aider à excuser mon importuné, j'ai l'honneur de vous informer que je ne suis autre que le prince Michel, héritier du trône de l'électorat de Valleluna. Je suis ici incognito, bien entendu, comme vous le devinez sans doute à mon aspect extérieur. C'est l'un de mes caprices que de m'efforcer de secourir ceux de mes frères mortels qui me paraissent mériter mon assistance. Peut-être le souci qui semble vous ronger sera-t-il susceptible de céder plus facilement à vos efforts, si vous me permettez d'y joindre les miens. » Le jeune homme leva les yeux sur le prince avec un sourire qui ne réussit point à effacer le sillon que l'anxiété avait creusé entre ses sourcils. Il se mit à rire, mais sans que le sillon disparût. Cependant, il accepta aimablement cette diversion momentanée. « Enchanté de faire votre connaissance, prince, fit-il avec bonne humeur. Oui, je me doutais bien que vous voyagiez incognito dans ces parages. Merci pour votre offre d'assistance, mais je ne vois pas comment votre renfort pourrait modifier l'issue du conflit. C'est une affaire tout à fait particulière, voyez-vous. Mais merci tout de même. » Le prince Michel s'assit auprès du jeune homme. C'est souvent qu'on l'envoyait promener, mais grâce à ses manières et à ses paroles courtoises, cela se passait toujours à l'amiable. Les horloges, dit le prince, sont des entraves aux pieds de l'humanité. J'ai remarqué que vous fixiez celle-ci d'un regard persistant. Cependant, la face de cette horloge est celle d'un tyran. Ses chiffres sont aussi faux que ceux d'un billet de loterie. Sa sonnerie ressemble à la voix d'un tricheur qui vous invite à venir jouer aux cartes pour vous dépouiller. Permettez-moi de vous donner un conseil. Délivrez-vous de ces liens humiliants et cessez de diriger vos affaires d'après les indications de ce moniteur de laiton et d'acier. « Oh, je ne le fais jamais d'habitude, dit le jeune homme. J'ai toujours une montre sur moi, sauf quand je suis englué dans ces frusques de gala. » « Je connais la nature humaine aussi bien que l'herbe et les arbres, dit le prince avec un sérieux plein de dignité. Je suis un maître en philosophie, un connaisseur en art, et je possède le compte en banque d'un Fortunatas. Il y a peu d'infortunes humaines que je ne suis capable de soulager ou de surmonter. J'ai lu dans votre visage, j'y ai trouvé de la noblesse et de l'honnêteté, en même temps que de la détresse. Mais je vous prie d'accepter mon aide ou mes conseils. Ne faites pas mentir l'intelligence qui se reflète sur votre physionomie en jaugeant, d'après mon aspect extérieur, le pouvoir que je puisse avoir de vaincre vos ennuis. » Le jeune homme leva de nouveau les yeux sur l'horloge et fronça les sourcils d'un air sombre. Puis son regard abandonna la clepsydre illuminée et, après un court voyage dans l'espace, se posa résolument sur le quatrième et dernier étage d'un immeuble en briques rouges situé en face de lui, de l'autre côté des grilles. De faibles lueurs, filtrant à travers les jalousies, indiquaient clairement qu'une certaine activité s'exerçait dans la plupart des pièces. Oh, 9h moins 10, s'écria le jeune homme avec un geste d'impatience et de désespoir. Il se leva, tourna le dos à la maison fatale et fit rapidement 2 ou 3 pas dans la direction opposée. Arrêtez, ordonna le prince Michel d'une voix si puissante que le désespéré obéit et se retourna en riant amèrement. « Oh, je lui ai encore 10 minutes, et puis je m'en vais, » murmura-t-il tout bas. « Me joins cordialement à vous, mon ami, » continua-t-il à haute voix en s'adressant au prince, « pour maudire toutes les horloges, et j'y ajouterai toutes les femmes. « Asseyez-vous, » dit le prince avec calme. « Je n'accepte pas votre addenda. Les femmes sont les ennemis naturels des horloges, et par conséquent les alliés de ceux qui cherchent à secouer le joug de ces monstres calculateurs de nos folies et limitateurs de nos plaisirs. Si cela n'est point trop exigé de votre confiance, je vous prierai de me raconter votre histoire. » Le jeune homme se laissa choir sur le banc avec un rire désabusé. « Oh, volontiers, votre Altesse royale, » dit-il d'un ton ironiquement déférent. « Vous voyez cette maison, celle dont les 3 fenêtres du dernier étage sont éclairées ? Eh bien, à 6 heures, je me trouvais là-haut, en compagnie de la jeune dame à laquelle j'étais fiancé. J'avais fait des blagues, mon cher prince, je m'étais conduit comme un polisson, et elle l'avait appris. Alors je voulais me faire pardonner. » « Nous demandons toujours aux femmes de nous pardonner, n'est-ce pas, mon électeur ?»« Oh, laissez-moi le temps d'y réfléchir, » m'a-t-elle répondu. « En tout cas, soyez certain de ceci. Ou bien je vous pardonnerai complètement, ou bien je ne vous reverrai jamais plus. Pas de demi-mesure. À 8h30, dit-elle, à 8h30, très exactement. Regardez la fenêtre du milieu. Si je me décide à vous pardonner, j'y agiterai une écharpe blanche. » Vous serez ainsi que tout est oublié et que vous pouvez venir me retrouver. Mais si vous n'apercevez pas d'écharpe blanche, vous pouvez considérer que tout est jamais fini entre nous. C'est pourquoi, conclut le jeune homme avec amertume, je n'ai cessé de contempler cette horloge. L'heure fixée pour le signal est passée depuis déjà 23 minutes. Cela vous explique la raison de mon agitation, ô prince des clochards. « Permettez-moi de vous répéter, » dit le prince Michel de sa voix égale et agréablement modulée, « que les femmes sont les ennemis naturels des horloges. Celles-ci sont une peste, celles-là sont une grâce céleste. Le signal peut encore apparaître. »« Mais jamais, grand électeur !» s'écria le jeune homme avec un accent de désespoir. « Vous ne connaissez pas Marianne. Elle est toujours à l'heure, à une seconde près. C'est la première chose qui m'a séduit en elle. » En fait, l'écharpe flottante, c'est le torchon qui brûle. À 8h31, je savais que mon affaire était réglée. Oh, je vais partir pour l'Ouest ce soir, par le rapide de 11h45, avec Jack Milburn. Le sort est jeté. Je resterai quelque temps au ranch de Jack, puis je finirai par le Klondike et le whisky. Allez, bonsoir. Mon prince, bonsoir. Le prince Michel arbora un sourire énigmatique, compatissant et divinatoire, et attrapa le jeune homme par la manche de son pardessus. L'éclat qui brillait dans ses yeux s'était fondu en une sorte de rêveuse phosphorescence. « Attendez, » dit-il solennellement, « que 9 heures est sonné. J'ai, oh, plus que le reste des hommes, de la fortune, du pouvoir et de la science, mais je suis toujours un peu effrayé quand j'entends sonner l'horloge. Restez près de moi jusqu'après la sonnerie de 9 heures. Cette femme sera vôtre. Le prince héréditaire de Valleluna vous en donne sa parole. Et le jour de votre mariage, je vous ferai présent de 100 000 $ et d'un palais sur l'Hudson. Mais à la condition qu'il n'ait point en ce palais de ces damnées horloges qui mesurent nos folies et limitent nos plaisirs. Êtes-vous d'accord ? Bien sûr, fit le jeune homme gaiement. Les horloges sont insupportables, de toute façon, avec leur tic-tac et leur carillon et leur manie de vous faire arriver en retard pour dîner. Il jeta les yeux vivement sur l'horloge de la tour. Il était 9 h moins 3. Je crois, dit le prince Michel, que je vais faire un petit somme. J'ai eu une journée très fatigante. Il s'allongea sur le banc en déployant une technique qui révélait une accoutumance sans doute plus ancienne à ce genre de couche royale. Vous me trouverez dans ce parc tous les soirs, lorsque le temps le permet, dit le prince en étouffant un bâillement. Venez me voir, et que le jour où votre mariage sera décidé, je vous remettrai un chèque. Merci, Votre Altesse, dit le jeune homme sérieusement. Ce n'est pas que j'ai grand besoin de ce palais sur l'Hudson, mais cela ne m'empêche pas d'apprécier votre offre. Le prince Michel tomba aussitôt dans un profond sommeil. Son chapeau crasseux roula sur le sol. Le jeune homme le ramassa et en couvrit le visage hirsute. Puis il releva l'une des jambes du dormeur qui avait glissé et pendait grotesquement comme celle d'un pantin. Pauvre diable, dit-il en resserrant les haillons autour de la poitrine du prince. Et soudain, l'horloge de la tour frappa brusquement le premier coup de 9 h. Le jeune homme sursauta, puis soupira, tandis que ses grenelles éteintement fatidiques, jeta un dernier regard sur la fenêtre du milieu, tombeau de ses espérances, et poussa aussitôt une volée d'exclamations effrénées qui paraissait exprimer le plus extatique ravissement. Car à la fenêtre du milieu venait de s'épanouir dans l'ombre flottante divine l'adorable fleur blanche du pardon et de la béatitude. À cet instant, passait près du jeune homme un citoyen rondelet, confortable, qui se hâtait vers son wigwam, inconscient des transports que peuvent dispenser les écharpes de soie blanche au-dessus d'un parc obscur. Pourriez-vous me dire l'heure, monsieur, s'il vous plaît? Demanda le jeune homme. Le citoyen lui jeta un regard soupçonneux et, conjecturant d'après les vêtements de son interlocuteur que sa montre ne risquait rien, le tira de sa poche et déclara 8 h 30 minutes 20 secondes, monsieur. Puis, par habitude, il leva les yeux sur l'horloge et poursuivit son élocution. Oh, Saint-Georges, mais l'avance d'une demi-heure! S'exclama-t-il. Première fois depuis 10 ans que ça lui arrive. Ma montre ne varie jamais d'un sac, qu'une seconde. Mais le citoyen ne parlait plus qu'au néant. Il se retourna et vit la silhouette sombre de son auditeur qui galopait vers une des maisons d'en face, dont l'une des fenêtres exhibait une sorte de drapeau blanc animé de mouvements frénétiques. 7 h du matin. Deux policemen effectuent leur ronde habituelle dans le parc désert, qu'occupe seul un personnage plongé dans un état de détérioration avancée et dans un sommeil tardif sur l'un des bancs. Il s'arrête et le contemple. Oh, c'est Mike Vermouth, dit l'un d'eux. Vieux clochard, roupi dans le parc toutes les nuits depuis 20 ans. Oh, vieux maniaque aussi, il se prend pour un prince quand il est sous. L'autre policeman se penche, scrute les mégots de cigares qui jonchent le sol et aperçoit, au creux de la main droite du dormeur, une sorte de papier tout froissé. Mince, fait-il, mais c'est un billet de $50 qu'il a dégoté là, en tout cas. Oh, mais je voudrais bien connaître la marque de ses cigares. Alors, faut le réveiller, c'est la consigne. Le prince Michel, grand électeur Valleluna, marmonne doucement. Grand chambellan, petit lever, secours du trône. Puis il ouvre les yeux, aperçoit les agents et se redresse avec effort. Excusez-moi, fait-il aimablement, sorti prendre le frais ce matin, assoupi sans le vouloir. Soudain, il se rend compte qu'il y a quelque chose dans sa main droite. Il regarde et il lève lentement les yeux, avec un sourire un peu confus, sur les deux policemen qui s'éloignent sans mot dire en faisant des moulinets avec leurs bâtons blancs. Mais je me demande, dit Mac Vermouth, lorsque les uniformes ont disparu derrière un bosquet, je me demande s'il a eu sa gonzesse après tout. Et Mac Vermouth, prince des fantômes et grand électeur des idéalistes, jette successivement un regard philosophique sur la maison d'en face, sur l'horloge et sur le billet de $50, et se dirige résolument vers la sortie du parc, le Bearish Bar.